Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Après la forte mobilisation hier, comment va évoluer le mouvement contre la réforme des retraites? Nouvel appel à la grève et à manifester mardi. Quelques défilés ce matin, encore 87% de grévistes chez les conducteurs de train. Retour à la normale pour les transports en commun dans une partie des villes, mais seulement un TGV sur 10 à nouveau. Les propositions du gouvernement chez les profs, hausse de salaire pour ceux qui passeront à la retraite à point, précision du matin. 5% des enseignants en grève aujourd'hui selon le ministère, ils étaient très nombreux hier. Quelle suite de leur côté? L'invité de ce journal est la porte-parole du premier syndicat chez les professeurs des écoles. Pensez à votre famille. Les lettres de menaces envoyées directement chez des CRS. Signature, tous les flics sont des salauds. 4 plaintes déposées, enquête ouverte. La rougeole est bel et bien à nouveau une question de santé publique dans le monde. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé sont inquiétants, Daniel.
140 000 morts en un an, 10 millions de cas recensés. Les îles Samoa victimes d'une épidémie sans précédent. La rougeole fait toujours plus de victimes.
Dans cette édition encore, un candidat à la présidentielle aux États-Unis qui se revendique d'Emmanuel Macron, le démocrate Pete Buttigieg. Il a 37 ans.
Pour gagner, il faut un candidat qui est nouveau. En France, on voit un président 39 ans, je crois, candidat commencé.
Portrait tout à l'heure avec Grégory Philips. Le réquisitoire au procès 17 ans après la mort d'Élodie Kulik, 30 ans requis contre Willy Bardon. Et puis nous vous raconterons aussi cette histoire quand des ours polaires menacent un village de Sibérie. Conséquence une de plus du dérèglement climatique. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Les réseaux de transport dans les villes sont un peu moins perturbés ce matin. Quasi retour à la normale à Marseille, à Montpellier, Nice, Grenoble, Toulouse. Mais la gare de Strasbourg était vide, idem à Rennes. Très peu de bus et aucun tramway à Clermont. Quasiment aucun train encore dans les Landes. Et globalement, 90% des TGV et 70% des TER sont annulés. Les chiffres des grévistes chez les cheminots, 87% des conducteurs en grève, un tiers des cheminots plus globalement. À Paris, manquent encore 9 lignes de métro, entre autres. Hier, que ce soit en région parisienne ou ailleurs, beaucoup de gens avaient pris leurs précautions, posé une journée, télétravail, sans parler des grévistes. Et du coup, ce n'était pas le chaos. Alors, comment ça se passe en ce deuxième jour? Bonjour Claire Flochel.
Bonjour.
J'ai testé pour vous chaque vendredi dans ce journal de 13h. Eh bien, vous avez testé la traversée de Paris un jour de grève. Vous êtes parti de chez vous, 18e arrondissement de Paris, c'est au nord de la capitale, jusqu'à la maison de la radio, sud-ouest alors.
Alors, c'est parti, je vous emmène avec moi. Je tente en premier lieu le métro le plus proche de chez moi, Saint-Plon, sur la ligne 4. Mais quand j'y arrive, eh bien, il est fermé, il est 9h. La RATP avait pourtant promis que la 4 circulerait aux heures de pointe. Alors forcément, devant la bouche de métro, ça râle un peu, comme Julie.
Normalement, c'est censé être ouvert jusqu'à 9h30. Je pensais être un peu juste, mais je pensais l'avoir quand même. Donc bon, tant pis, je sais pas comment je vais faire. Je dois aller à l'école, pour bosser, et bah, je pourrais pas.
Vous n'avez pas de vélo, de trottinette?
Non, et puis en plus, j'ai vu qu'il y avait des stations de Vélib qui étaient fermées. Donc ça va être la galère, donc on va voir.
Ouais, les stations de Vélib que je crois sont en effet vides, fermées ou prises d'assaut. Ceux qui ont un vélo sont évidemment mieux lotis.
Non, je suis pas dérangé du tout. Je prends toujours mon vélo le matin, ça me change les idées.
Bon, alors faute de vélo ou de métro, Claire, reste les bottines, la marche.
Eh oui, direction le tramway, à 10 minutes à pied, ça va encore. Il y a du monde, mais je parviens à monter dedans. Je prends ensuite un premier bus, je m'arrête devant le musée du Louvre. Je suis donc en plein centre de Paris, j'ai bien avancé.
Pas mal, pas mal.
C'est pas mal, c'est à ce moment-là que je croise le fringant Henri qui traverse Paris d'est en ouest.
Je voulais prendre mon vélo, mais vu mon âge, ma femme m'a dit « Arrête, va pas te casser la gueule maintenant, à 82 ans, tu vas pas jouer les... » Bon, moi je regrette d'ailleurs de l'avoir écouté. Alors je fais à pied.
C'est loin, non?
Bah oui, je sais pas, c'est bien, c'est agréable. Un petit vieux qui marche bien.
Eh oui, Henri repart d'un bon pas. Moi j'arrive à mon deuxième arrêt de bus, il y a aussi Marie, un peu plus stressée.
Là j'ai réunion à Ballard, au sud de Paris, et je viens de Montmartre. Je comptais prendre un bus à côté de Gare du Nord qui lui devait m'amener à Ballard, sauf que le bus a été supprimé et les suivants aussi. Donc j'ai marché de Montmartre à Gare du Nord et ensuite j'ai attendu et finalement je suis venue à pied jusqu'au Louvre pour essayer de prendre un autre bus.
Ah oui, donc depuis ce matin là vous êtes à pied en fait, finalement vous n'avez pris aucun bus.
Exactement, et il me reste une heure de trajet.
Donc vous, c'est un peu la galère quand même.
Oui, c'est vraiment la galère, oui.
Bon, Marie a eu un peu moins de chance que moi. On est parti à peu près du même endroit, mais j'ai beaucoup moins marché qu'elle. Dernière étape pour moi, enfin, je monte dans le deuxième bus.
Radio France.
Le fameux bus 72, on le connaît bien oui. Ici, puisqu'il nous dépose devant la maison de la radio. Et me voilà avec vous dans ce studio, Bruno, après un peu de marche à pied, un tram et deux bus. J'aurais quand même mis plus de 2 heures, alors qu'en temps normal, je mets 45 minutes environ.
1 heure et quart de plus. Merci beaucoup, Claire Flochel, pour ce récit. Il y a par ailleurs nettement plus d'embouteillages qu'hier en Ile-de-France. 350 km enregistrés juste avant 8 heures. C'est 200 km habituellement. Les autres faits de la matinée, l'université de Lyon est fermée pour éviter Lyon 2, pour éviter le blocage par des étudiants. Ici ou là, il y a eu des opérations escargots, des barrages filtrants, des péages gratuits à Châtellerault, en Meurthe-et-Moselle, à Cherbourg. 4 raffineries bloquées ce matin. Hier, entre 800 000 personnes selon la police et 1,5 million pour la CGT sont descendues dans la rue. C'est beaucoup et il y a encore des manifestations aujourd'hui. 14 heures par exemple à Valence et c'était ce matin à Lyon, Mathilde Imberti.
La manifestation est interprofessionnelle comme hier. Des enseignants, du personnel hospitalier, des étudiants également et bien sûr les cheminots qui défilent. Antoine Jarmo est contrôleur de train dans la région.
Hier c'était énorme. Il y avait un petit moment où on n'avait pas eu une telle convergence au niveau des manifs. Ça met du baume au cœur et ça motive à pouvoir continuer. On sait qu'on n'est pas seul. Ah ben on va faire grève jusqu'au moment où le gouvernement annonce qu'il retire cette loi néfaste, ce projet de loi totalement néfaste. La retraite par points, on a des exemples. On sait que c'est pas ce qu'il nous faut, c'est pas bon.
Deuxième jour de grève, deuxième cortège dans le froid pour Caroline, professeure des écoles à Vénissieux dans l'agglomération lyonnaise. Elle ne veut pas de cette réforme des retraites.
Ah ben, elle nous pénalise financièrement pour notre retraite énormément. Hein. Sur une carrière complète ou incomplète, c'est énorme. Hein.
Ce n'est que le début, assure une banderole. Mathieu, personnel administratif au rectorat de Lyon, confirme.
Il n'y a rien de défini, donc c'est le rapport de force en gros qui va donner l'issue de ce qui peut se passer. Donc nous, on est toujours mobilisés dans la rue, on n'a pas l'impression que ça écoute beaucoup. Et puis, il y a un appel en début de semaine, à remettre le couvert, à mobiliser les collègues pour une grosse journée.
Déjà, une nouvelle journée de mobilisation s'annonce pour le 10 décembre, mardi prochain. À Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et oui, le 10 décembre, en effet, mardi prochain, puisque l'intersyndicale a appelé ce matin à une nouvelle journée de grève et de manifestation mardi prochain. Dans les écoles aujourd'hui, 70% des écoles sont ouvertes à Paris. Il y en a des écoles fermées à Montpellier ou Avignon, par exemple. Globalement, selon le ministère, le taux de grévistes chez les enseignants est de 5% ce vendredi. Hier, toujours selon le ministère, on était à 51% dans le primaire et 42% dans le secondaire. L'invité de ce journal est la porte-parole du premier syndicat d'enseignants dans le primaire, le SNUIPPFSU. Bonjour, Françoise Popineau.
Bonjour.
Vous avez un taux de grévistes aujourd'hui à nous donner ?
Non, parce que je pense que vous l'avez compris, nous sommes dans un plan d'action qui s'inscrit dans la durée, avec évidemment des moments d'intensité variable et des temps forts, comme vous l'avez indiqué, pour le mardi 10. Donc là, évidemment, ça se passe localement, hein, on marque le paysage. Ce qui se passe surtout, c'est que ce sont des moments aussi pour entrer en contact entre collègues, avec la population, et pour effectivement échanger et discuter des suites à venir.
La question de fond pour les enseignants français de Pompineau, c'est la retraite qui ne serait plus calculée sur les 6 derniers mois de salaire, mais sur l'ensemble de la carrière, les primes qui ne seraient pas intégrées dans le calcul. Pourquoi ne pas donner quitus au gouvernement quand il assure qu'il n'y aura pas de baisse de niveau des pensions, que les salaires seront augmentés en conséquence ?
Non, alors écoutez, enfin c'est assez naturel de se dire qu'il aurait fallu poser des choses sur la table bien en amont de cette réforme. Là, c'est un petit peu facile de nous laisser entendre que on va faire la réforme et ensuite les choses seront discutées et ça s'améliorera. Si vous voulez ce rapport de confiance, je crois qu'il est rompu depuis un certain temps, donc on ne peut pas fonctionner comme cela. Il va falloir en effet qu'il y ait de la monnaie sonnante et trébuchante sur la table et qu'on sache ce que le ministère, ce que le au-delà du ministère, ce que le gouvernement est prêt à mettre sur la table.
Alors, à propos de sonnant et de trébuchant, le secrétaire d'État chargé de la jeunesse, Gabriel Attal, était ce matin l'invité de France Info. Il a été question du budget que le gouvernement serait prêt à débloquer pour les enseignants. Écoutez ce qu'il dit et puis j'attends votre réaction.
Ça sera autour de 400 à 500 millions d'euros par an et ça se fera de manière progressive au fur et à mesure que des enseignants seront concernés par la bascule dans le nouveau système. Le million de personnels d'éducation nationale ne seront pas tous concernés par le nouveau système de retraite puisqu'il va y avoir une entrée en vigueur progressive et j'en reviens au débat.
Donc les revalorisations salariales, ce serait uniquement pour ceux qui sont concernés par la réforme ?
Bien sûr, c'est pour faire en sorte que ceux qui sont concernés par le nouveau système n'y perdent pas par rapport à l'ancien. Et donc elles concerneront les enseignants qui auront vocation à basculer dans le nouveau système.
Alors, Françoise Popineau, il y a deux choses, 4 à 500 millions d'euros par an, mais hausse de salaire uniquement pour ceux qui seront concernés par la réforme des retraites. Qu'en dites-vous ?
Oui, alors on s'est empressé de faire les calculs hein, suite à cette annonce et effectivement ça reviendrait à peu près 500 euros par an pour ceux qui effectivement partent à la retraite et sont concernés par la réforme. Donc on est vraiment loin du compte puisque nous le savons aujourd'hui, la déperdition pour les professeurs des écoles est de 600 à 900 euros par mois hein, de pension. Donc là évidemment on est très très loin du compte. Donc là ça ne nous convient pas. On nous avait parlé de 10 milliards hein, à un moment donné. Et là, maintenant, on est sur des chiffres extrêmement bas. Donc, il va falloir revoir tout cela et nous faire des propositions concrètes en nous disant exactement à quoi cela correspond et surtout revoir ce système de pension dont on voit très bien qu'il vise à baisser les pensions de l'ensemble des salariés.
900, donc, jusqu'à 900 euros par mois de pertes pour les enseignants, oui, c'est inexact, dit Jean-Michel Blanquer. Vous maintenez le chiffre, hein ?
Oui, oui. Pour les enseignants du premier degré, il s'agit bien de entre 600 et 900 euros, hein, selon évidemment la durée de carrière et puis si on est professeur des écoles ou si on est instituteur, parce que nous avons deux corps. Nous avons pris en compte les éléments qui sont dans le rapport de Levoy et qui servent de base à nos calculs et qui servent de base à la réforme. Donc, je ne pense pas que nous ayons commis une quelconque erreur et il serait temps qu'il nous montre exactement, lui, quels sont ses calculs et qu'on discute effectivement de calcul à calcul.
Bon, si
et au-delà de ça, il y a le pacte social qui est rompu, puisque vous le savez, les enseignants du premier degré étaient mal payés, avec une progression extrêmement lente, mais que la contrepartie, c'était qu'effectivement, leur retraite était calculée sur les mois les plus avantageux, c'est-à-dire ceux de la fin de carrière.
Bon, si je tire les conclusions de ce que vous venez de nous dire là dans les minutes passées, vous appelez à manifester, à faire grève mardi.
Alors nous appelons évidemment à faire grève mardi et la colère n'a pas baissé du tout pour l'instant puisque nous n'avons aucune réponse du ministère. Donc il faut impérativement, et du gouvernement, donc nous demandons évidemment qu'il y ait des réponses, que le gouvernement prenne ses responsabilités, entende le message et nous fasse de vraies propositions.
Ça veut dire que ce sera encore fortement perturbé dans les écoles mardi. Quel message aux parents d'élèves, Françoise Popineau ?
Oui, alors les parents d'élèves, évidemment, nous sommes soucieux de nos élèves et de leurs parents, bien évidemment. Nous le regrettons, mais la balle reste dans le camp du gouvernement qui peut mettre des choses dans la balance pour effectivement que tout revienne au calme. Personne ne s'amuse, c'est un moment difficile pour tout le monde et les parents d'élèves qui sont des salariés savent aussi qu'ils sont aussi directement impactés. Donc je pense que nous sommes tous malheureusement concernés par ces mouvements et par le fait qu'il faut abandonner cette réforme et rediscuter les choses. Il y a des choses à faire.
Merci Françoise Popineau, SNUIPP, FSU, d'avoir répondu aux questions de France Inter. Alors les syndicats sont reçus lundi par Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités, et par Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, qui doit ensuite dresser une synthèse de ces consultations. Puis ce sera le Premier ministre qui donnera plus de détails sur la réforme en fin de semaine prochaine, selon Agnès Buzyn, qui ajoute « La colère des Français a été entendue ». Bonjour Yaël Gauze.
Bonjour Bruno.
Chef du service politique de France Inter. Alors que font les différents ministres en ce début de mouvement ? Eh bien, ils écrivent. Mail de Jean-Michel Blanquer aux enseignants. Vous ne serez pas perdants, c'est promis. Lettre de Christophe Castaner aux syndicats de policiers pour assurer que les spécificités de leur métier seront conservées. Deux syndicats de policiers appellent ce matin à poursuivre le mouvement. Au fond, il y a une tentative de déminage secteur par secteur, Yael.
Oui, ce sont des ministres en mode armé de démystification massive. On occupe le terrain. Pas moins de 7 ministres à la télé hier soir pour répondre aux Français. Comment fracturer l'épais mur de la défiance, voilà l'enjeu. Alors chaque ministre écrit sa lettre à son fonctionnaire, idée suggérée dimanche dernier par Gérald Darmanin lors du séminaire gouvernemental. Il y a deux jours, ce sont les douaniers qui ont reçu leur courrier rassurant, l'objectif étant de contourner certains syndicats que le gouvernement accuse de souffler sur les braises et sur les fake news. Est-ce que cette contre-attaque peut suffire ? Sans doute pas, car nos ministres se retrouvent dans la situation de répondre sur un texte qu'eux-mêmes n'ont toujours pas entre les mains, cette fameuse loi cadre censée être votée avant l'été, voire avant les municipales, histoire d'être enfin clair sur le sujet. Tout l'enjeu désormais, me confie un membre du gouvernement, c'est de ne plus traîner pour garder la maîtrise du récit et ne pas devenir le punching ball de toutes les colères. Rester sur les retraites et rien d'autre, d'où l'hyper-réactivité sur les autres dossiers, hospitaliers ou agricoles, traités à part et en urgence. Et sur les retraites, prière d'éviter le piège des questions budgétaire. Là aussi, la consigne a été passée. Si on s'embarque sur les efforts et le travailler plus, me confie un conseiller, c'est simple, on est mort.
Au Rassemblement National, Jordan Bardella plaide pour un référendum sur cette réforme des retraites. Pourquoi pas, dit Alexis Corbière à la France Insoumise, à condition que la question soit bien posée. À droite, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy accuse le gouvernement de crisper la France sans avoir dévoilé de vrais projets pour l'instant. Le député En Marche de Gironde appelle le gouvernement à sortir de l'ambiguïté. Ce ne sera pas tenable très longtemps. Ça apparaissait également dans vos propos, hein, Yaël. Un dernier éclairage avant de refermer ce dossier grève. Retour en Ile-de-France. Un train sur cinq en moyenne aujourd'hui. Nous avons commencé à Paris avec Claire Flochel. Mais c'est le coup de gueule d'un élu de la Grande Couronne que nous allons entendre. Le président du département de Seine-et-Marne, Patrick Septier, il se sent abandonné.
Nous avons des zones en Seine-et-Marne dans lesquelles il n'y a aucun train. Aucun train hier, aucun train aujourd'hui. Provins, Coulommiers, Esbly, sur Fontainebleau, Montreux, Nemours. Donc pour les gens, c'est deux journées noires. Donc ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de Seine-et-Marnaises et de Seine-et-Marnais qui n'ont pas pu se rendre à leur travail, qui aujourd'hui ne pourront pas y aller, qui ne peuvent pas honorer un certain nombre de rendez-vous professionnels ou médicaux. Le conflit, il est connu depuis longtemps. Donc on aurait pu quand même penser que la SNCF organise des services minimums. C'est fait pour un certain nombre de lignes, je dirais, de petite couronne. Mais nous, dans la grande couronne, nous avons absolument rien. Et la priorité est toujours donnée, je dirais, un peu au même.
Un propos recueilli par nos confrères de France Info. Et alors qu'en filigrane de la réforme des retraites, il y a la question de l'argent public, un rapport récent de la Cour des comptes suggérait de mieux lutter contre la fraude fiscale pour récupérer des sous. La France fait-elle ce qu'il faut pour lutter contre la fraude fiscale? Ce sera le thème du Téléphone Sonne ce soir avec Claire Servageon à 19h20. Toutes vos questions, c'est au 01 45 24 7000 à partir de 18h. Qui est derrière la série de lettres de menaces envoyées directement chez des policiers, des CRS précisément? Ils sont visés personnellement, leur famille aussi, signature ACAB, All Cops Are Bastards, tous les flics sont des salauds, un slogan anti-police connu. 4 plaintes ont été déposées pour le moment, Ariane Grissel.
Oui, 4 à ce stade. Une note envoyée dès hier soir aux différentes directions appelle tous les CRS qui ont reçu ces menaces à porter plainte. Ils sont 8 recensés pour le moment, habitent dans des régions différentes, mais ont leur nom sur une même liste, une liste qui est publique. David Michaud est secrétaire national CRS pour le syndicat UNSA Police.
La personne a tout simplement été sur le journal officiel, recensé la diffusion d'un arrêté. Il a récupéré les noms, prénoms, le service d'affectation. Ensuite, il a effectué des recherches sur Internet et il a envoyé les courriers aux personnes, ne sachant pas si c'était les bonnes personnes. Mais il visait délibérément des fonctionnaires de police.
Cette liste compte en tout 120 noms. Avec la grève qui a retardé les transports, on s'attend à voir d'autres courriers arriver dans les prochains jours. Aujourd'hui, les syndicats demandent des mesures pour éviter que de tels envois soient à nouveau possibles. Denis Jacob est secrétaire général d'Alternative Police CFDT.
On avait déjà demandé l'anonymisation des policiers dans le cadre des procédures qu'ils rédigent afin d'assurer leur sécurité. Aujourd'hui, on demande que ce soit généralisé à tout acte. Effectivement, les policiers, malheureusement, sont habitués à des menaces dans l'exercice de leurs fonctions, qui est nouveau. C'est qu'aujourd'hui, ce soit leur famille qui soit clairement ciblée.
À ce stade de l'enquête, de l'ADN a été retrouvé sur une enveloppe. Il est bien sûr analysé. Autre indice, le cachet de la poste. Les lettres ont été envoyées depuis la région de Bordeaux.
François Bayrou sera-t-il mis en examen dans l'affaire des assistants d'eurodéputés présumés fictifs? Affaire lancée par la cellule investigation de Radio France. Le fondateur du MoDem est entendu par les juges en ce moment même.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
C'est un insupportable fléau en Inde, les viols. Une nouvelle histoire ajoute de la violence à la violence. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Première étape de cette histoire, Nathanaël, une femme vétérinaire agressée, 4 hommes sont soupçonnés, reconstitution du viol. Et pendant cet acte d'enquête, la police a tué les 4 hommes.
Oui, vous l'avez dit, c'est une histoire horrible qui s'inscrit dans un contexte bien particulier en Inde. L'histoire, c'est celle du viol par 4 hommes d'une jeune vétérinaire de 27 ans dans le sud du pays. C'était mercredi il y a une semaine. Les 4 hommes avaient crevé les pneus du scooter de la jeune femme, puis sous prétexte de l'aider, l'avaient emmené sur une aire de camion. C'est là qu'ils l'auraient violée avant de la tuer. Ils auraient ensuite brûlé son corps avant de le laisser sous un pont. Officiellement, c'est lors d'une reconstitution du crime que les 4 individus individus auraient été tués par la police. Ils auraient tenté de s'échapper en s'emparant de l'arme de leur garde. Une version à laquelle personne ne croit véritablement et qui s'inscrit dans une ambiance bien particulière. Il faut savoir que l'affaire a révulsé le pays. Elle a entraîné des appels à la haine. Une députée au Parlement a demandé que les coupables soient lynchés. Une autre que les violeurs soient castrés. La police avait déjà dû repousser le week-end dernier des manifestants qui voulaient entrer dans le commissariat où les quatre hommes étaient enfermés. À l'annonce de leur mort, une partie de la population a fait la fête avec explosion de pétards et fleurs. Fin de l'histoire, mais pas forcément fin du problème de société. Il faut savoir que les chiffres officiels font état de 33 000 viols déclarés en 2017 en Inde, que les victimes doivent souvent attendre des années avant d'obtenir justice. Et enfin, si l'on en croit les associations d'avocats, il n'est pas rare que la police ait recours à ce genre de procédé, entre guillemets, afin de masquer des enquêtes bâclées.
Agression sexuelle aussi dans les voitures Uber. 6000 ont été enregistrées, 6000 agressions aux États-Unis en deux ans, 2017-2018. L'entreprise américaine est régulièrement critiquée pour son peu d'empressement à traiter ses voitures et ses affaires plutôt. Uber rappelle que ces chiffres impressionnants d'agressions représentent une course sur 50 000 en moyenne. Aux États-Unis, une étape de plus est franchie dans la procédure en destitution de Donald Trump. Le chef des démocrates au Congrès, la chef, demande que l'acte d'accusation du président américain soupçonné d'abus de pouvoir soit rédigé. Nous gagnerons la bataille, répond Trump. Si le procès a bel et bien lieu, ce sera devant le Sénat, majorité républicaine, qui devrait donc acquitter le locataire de la Maison-Blanche. Pendant ce temps, la course à l'investiture chez les démocrates continue pour savoir qui affrontera Trump dans moins d'un an. Portrait d'un des candidats qui a le vent en poupe, Pete Buttigieg. Gregory Phillips, vous l'avez rencontré dans le New Hampshire, dans le nord-est, tout près de New York. Le candidat parle français, entre autres particularités, Gregory.
Jour après jour, Pete Buttigieg laboure cet état du New Hampshire. Pour la seule journée d'hier, le candidat a enchaîné 3 town halls, des réunions publiques où les habitants viennent l'interroger sur son projet pour l'Amérique, la couverture santé, l'avortement. Il lui pose aussi des questions plus personnelles sur son couple ou son animal de compagnie. Il faut dire que Buttigieg intrigue. Peu d'expérience politique, hormis celle d'être le maire de South Bend, 100 000 habitants. Il est chrétien, centriste, vétéran de la guerre en Afghanistan, et seul candidat ouvertement homosexuel depuis qu'il a épousé Chasten il y a un an et demi. Enfin, Buttigieg parle 7 langues et c'est en français qu'il répond quand on lui demande si son âge, 37 ans, est un handicap face aux septuagénaires Biden, Bloomberg ou Warren.
Peut-être c'est comme ci, comme ça, mais je crois que pour gagner, il faut un candidat qui est nouveau et une génération nouveau. En France, on voit un président 39 ans, je crois, quand il a commencé.
Pete Buttigieg, encore inconnu il y a 6 mois, est désormais en tête des sondages dans l'Iowa et second dans le New Hampshire. Une victoire dans l'un de ses États en février ne lui garantirait pas l'investiture du Parti démocrate, mais elle donnerait un énorme coup d'accélérateur à sa campagne. Henniker, Grégory Phillips, France Inter.
Angela Merkel est face à l'histoire ce vendredi en Europe. Pour la première fois en tant que chef de gouvernement allemand, elle est à Auschwitz. La chancelière est arrivée ce matin dans le camp de concentration. Ces mots y auront évidemment une portée toute particulière. Le 27 janvier prochain marquera les 3/4 siècle de la libération d'Auschwitz par l'armée rouge. En Australie, c'est une forme d'impuissance qu'expriment les pompiers face au feu au nord de Sydney. 8 foyers d'incendie qui se sont rejoints en un seul sous l'effet du vent et de la sécheresse. 300 000 hectares brûlés. La zone est longue de 60 km. Et restons en Océanie. Ambiance archipel mort sur les îles Samoa aujourd'hui. Activité très réduite, la bataille est lancée contre la rougeole. Vaste campagne de vaccination contre ce virus qui a tué 63 personnes. Daniel Messager, vous nous le disiez dans les titres, les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé le prouvent, la rougeole est redevenue une question sanitaire d'importance.
Oui, ils ne sont pas rassurants ces chiffres. 140 000 morts dus à la rougeole l'an dernier. Des enfants principalement et 10 millions de cas recensés. Un échec collectif, reconnaît l'OMS, car c'est une maladie évitable grâce au vaccin. Elle est très contagieuse, ses complications sont mortelles et pour être bien protégé, il faut avoir reçu 2 doses. Alors que moins de 70% des enfants dans le monde ont été vaccinés avec cette 2e dose. Dans les pays occidentaux, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Albanie ont perdu leur statut de pays où la rougeole a été éradiquée. Les États-Unis enregistrent déjà 1400 200 cas sur cette année, un chiffre sans précédent depuis 25 ans. La principale cause en est une désinformation sur les vaccins, véhiculée en particulier dans les communautés religieuses extrémistes, désinformation également responsable de la situation que vous évoquiez aux îles Samoa. L'an dernier, la rumeur avait couru après la mort de deux bébés que c'était le vaccin contre la rougeole qui était responsable. Information évidemment fausse, mais qui avait entraîné un rejet par la population. Seulement 30% des habitants étaient donc vaccinés avant cette épidémie. Épidémie due à un touriste qui a importé la maladie.
Et à propos de santé, je vous rappelle le numéro de téléphone qui fait progresser la recherche. Chaque début décembre, appelez le 3637. Le Téléthon 2019 commence ce soir. Vous pouvez aussi déposer vos promesses de dons sur téléthon.fr. 17 ans après le viol et le meurtre d'Élodie Kulik dans la Somme, aux assises de la Somme, 30 ans de réclusion ont été requis ce matin contre Willy Bardon. Le suspect numéro 1 est mort dans cette affaire quelques mois après le crime. Mais pour l'accusation, Willy Bardon est bien impliqué dans au moins une partie des faits. Le procès est suivi pour France Inter par Corinne Audouin. Corinne, quels arguments ce matin pour nourrir le réquisitoire ?
Anne-Laure Sandretto se lève pour ses réquisitions. Pendant tout le procès, la magistrate n'a jamais nié les failles de l'enquête. Oui, il y a eu une orientation à charge autour de Willy Bardon, mais il n'est pas accusé par hasard. Méthodiquement, l'avocate générale construit sa démonstration. Grégory Viard est identifié par son ADN en 2012. Le jeune homme est mort en 2003. Les gendarmes interrogent tout son entourage, 180 auditions sont menées. Si le nom de Willy Bardon émerge, dit-elle, c'est parce que les témoins donnent son nom. C'est celui qui revient le plus souvent. Le cœur du réquisitoire, ce sont les 26 secondes d'appel d'Élodie aux pompiers. Et cette voix que plusieurs témoins reconnaissent comme étant celle de Willy Bardon. 6 témoins sont formels. Ce qui compte, dit-elle au juré, c'est votre intime conviction. Willy Bardon est le seul proche de Grégory Viard dont la voix est reconnue sur la bande. Il a une personnalité qui colle aux faits, égrène Anne-Laure Sandretto. Sa participation à l'enlèvement est donc certaine. L'avocate générale estime en revanche qu'il manque des éléments pour l'incriminer du viol et du meurtre d'Élodie Kulik. Alors pour le seul enlèvement et séquestration suivie de mort, elle demande contre Willy Bardon 30 ans de réclusion criminelle. Amiens, Corinne Audouin, France Inter.
Verdict après la plaidoirie des avocats et une dernière prise de position de l'accusé, ce sera ce soir. Une dernière histoire, une de plus, de dérèglement climatique pour finir ce journal. Une cinquantaine d'ours polaires qui se rapprochent, se réfugient quasiment dans un village de Tchoukotka, au nord-est de la Russie. Alors ils sont nourris par les habitants en attendant que la banquise se reconstitue. France Inter en Russie, Claude Brouillot.
Le phénomène devient maintenant récurrent. Les ours polaires de Tchoukotka, cette région à l'extrême nord-est de la Russie qui donne sur le détroit de Bering, sont victimes du réchauffement climatique après leur congénère de Nouvelle-Zemble, un archipel russe à l'extrême nord du pays l'hiver dernier. À cause de l'augmentation des températures, la banquise qui se forme plus tardivement réduit leur territoire de chasse et les plantigrades sont obligés de se rapprocher des humains à la recherche de nourriture. Cette fois, les habitants de Tchoukotka ont pris l'affaire en main en disposant de la viande de phoque à l'extérieur du village pour une cinquantaine d'ours à proximité et en attendant que la glace se reforme. L'an dernier, en Nouvelle-Zemble, les ours avaient été endormis et reconduits à une centaine de kilomètres des habitations. L'un d'entre eux est d'ailleurs l'objet d'une polémique aujourd'hui, portant sur sa fourrure de grosses marques noires avec les indications T34, initialement destinées à mieux suivre son périple, mais des scientifiques assurent que l'animal, privé de son camouflage naturel blanc, pourrait mourir de faim. Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
À propos de la réforme des retraites, cette dernière minute, les propos de Jean-Paul Delevoye en mode « on continue, la réforme des retraites est plus nécessaire que jamais à un moment où la société se fracture », dit le haut commissaire à la réforme des retraites.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des œufs fermiers de poule en liberté. Loué, libre par nature.
Élodie Calac.
Sur la moitié nord, c'est souvent gris, avec de la pluie de la Bretagne et des Pays de la Loire vers les frontières belges et luxembourgeoises, en passant par la région parisienne. Le vent est également de la partie, jusqu'à 80 km à l'heure sur les côtes. Au sud et sur le Jura, vous profitez du soleil. Un bémol vers le nord de la Garonne, la grisaille résiste. Bémol aussi pour la Corse, qui essuie encore quelques averses. Les températures s'orientent à la hausse, on attend souvent 5 à 13 degrés. 7 à Paris, Tours, Nevers et Strasbourg, 10 à Honfleur et à Grenoble, 13 à Brest, à Biarritz, jusqu'à 12 à 17 autour de la Méditerranée. Demain, pour avoir du soleil, on ira vers la Méditerranée. Ailleurs, ce sera bien encombré avec quelques pluies éparses du sud-ouest au nord-est. Le tout avec quelques degrés de plus qu'aujourd'hui.